100% entrepreneur.
Confidence d'un parcours.
Ils vous disent tout sur WeDoBiz.
Benoît Duchâtelet à l'antenne de WeDoBiz, ravi de vous retrouver pour cette émission des Hommes Clés. J'accueille aujourd'hui avec joie Louis de l'Étanville.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bonjour Louis. Vous dirigez aujourd'hui Argos Expansion, qui est un fonds d'investissement. Et à ce titre, forcément, nos auditeurs ont toujours dans leur vie d'entrepreneurs des parcours où la partie financement est indispensable. Vous connaissez les deux univers puisque vous vous êtes occupé longtemps de financement. Vous avez créé votre propre structure et votre propre fonds en étant entrepreneur vous-même. Est-ce que vous avez la gentillesse de revenir sur ce parcours qui du coup était celui qui vous a amené à Argos Expansion et la vision que vous avez de cette étape importante dans la vie des entrepreneurs?
Oui, très volontiers. J'ai commencé ma carrière tout de suite à la sortie d'une école de commerce dans le capital investissement, dans un fonds de LBO qui s'appelle Argos Soditic, qui est présent à Paris, à Genève et à Milan.
Donc c'est une balise qui vous suit depuis le début alors?
C'est une balise exactement qui me suit depuis le début. J'ai fait une dizaine d'années avec l'équipe d'Argos Soditic et après cette première période, l'idée a émergé au sein de l'équipe de développer une nouvelle activité qui soit du financement minoritaire. Argos Soditic faisant des LBO majoritaires, donc des opérations pour des entreprises un peu plus matures. Et l'idée de monter quelque chose moi-même et donc d'entreprendre me taraudant depuis assez longtemps, j'ai sauté avec joie sur cette opportunité. Et donc, j'ai mis mon petit canot à l'eau, avec le soutien évidemment toujours d'Argos Soditic, qui est actionnaire de notre société à nos côtés, pour aller développer ce nouveau fonds de commerce.
D'accord. Voilà. Vous avez créé ça il y a 3 ans, aujourd'hui.
Exactement.
Et quel était le parcours avant, justement, vous l'avez présenté, mais quelle durée? Parce que sortie d'école, commencer immédiatement les analyses, la démarche d'accompagnement et de financement des entreprises, ce n'est pas forcément si fréquent.
Non, ce qui est assez amusant, c'est que dès le départ, en fait, j'avais l'envie d'entreprendre, me taraudait. Et puis, je crois que dans une vie d'entrepreneur, certains démarrent à 20 ans, d'autres démarrent à 30 ans, d'autres à 40. Il n'y a pas d'âge prédéfini pour entreprendre. Je pense que ça dépend beaucoup des secteurs, ça dépend beaucoup des caractères.
L'état d'esprit, oui, oui.
Voilà. En revanche, je pense que chez tous les entrepreneurs, il y a une envie qui est là, sous-jacente, et elle éclot plus ou moins tôt dans un parcours professionnel. Et moi, j'ai démarré dans ce métier avec l'envie, à défaut d'entreprendre tout de suite, d'accompagner des entrepreneurs.
D'accompagner les entrepreneurs. Et vous avez eu aussi, enfin, l'originalité, c'est non pas la cohérence d'ensemble, parce que après chaque histoire est particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez, avec Argos, effectivement, commencé au début, et ils vous ont accompagné dans cette création, et c'est votre actionnaire aujourd'hui aussi.
Absolument.
Donc ça montre aussi une certaine logique. Je pense aussi à nos jeunes entrepreneurs. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut avoir un regard au long cours, parce que des partenaires peuvent vous accompagner très longtemps lorsque la relation est bonne.
Absolument. Il faut avoir un regard au long cours et puis il faut suivre son étoile. Je dirais, il y a une cohérence assez forte depuis que je suis sorti de l'école dans mon parcours, mais préalablement, ça l'a été un peu moins. J'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait une prépa littéraire, ensuite une école de commerce. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver mon axe et depuis, je n'en sors pas parce que ce parcours de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des entrepreneurs est fantastique, quelle que soit, je dirais, finalement la taille des entreprises, parce que un dirigeant d'une belle entreprise du CAC 40 comme Xavier Fontanet des Silor a une vision d'entrepreneur, même s'il dirige une entreprise qui est très grosse. Et donc, ce sont des gens qui ont une intuition, une vision, une rapidité d'exécution et de pensée très forte et une vivacité exceptionnelle. Donc, c'est ces gens-là qui est passionnant d'accompagner, je dirais.
Bon, et puis je suis ravi de savoir que le patron des Silor a une vision claire. Mais la question, effectivement, aujourd'hui, puisque vous avez les deux casquettes, on parlait des hommes clés, donc vous l'êtes vous-même depuis cette création d'entreprise, mais vous les avez connus et vous les accompagnez encore aujourd'hui dans cette étape indispensable qui est leurs augmentations capital, leur financement. Quelles sont les rencontres ou les moments clés qui vous ont marqué au cours de ces 3 dernières années?
Mais les moments clés, ce sont d'abord des rencontres humaines. Je pense que c'est important de dire et de répéter peut-être aux entrepreneurs qui recherchent un financement que la clé, le point de départ, c'est une association entre des personnes qui, la plupart du temps, investissent également leur argent, et donc des entrepreneurs de la finance que sont des investisseurs, investissent leurs sous dans les fonds qu'ils gèrent. Oui. Donc, on s'associe avec des personnes.
L'engagement est fort.
L'engagement est très fort.
Enfin, il est matériel.
Il est matériel et il est humain. La recherche du rendement est nécessaire parce que On va pas aller chercher des investisseurs en leur disant qu'on va simplement investir pour la beauté du geste. Et les gens qui nous confient leur argent attendent un rendement de manière légitime, avec une prime de risque qui est plus forte quand on investit sur des PME que sur des entreprises cotées de grande taille.
Ce que vous avez connu avant, c'est-à-dire que...
Non, j'étais pas sur des entreprises cotées, je restais sur des entreprises gros cotées, oui. Mais on était sur des entreprises...
plus matures, vous disiez.
Oui. Voilà, plus matures. Donc, je pense que la première question que doit se poser l'entrepreneur quand il rencontre un financier, quand il a besoin d'argent, c'est... est-ce que j'ai envie de m'associer avec ces personnes ? Est-ce que j'ai envie de faire un parcours humain de 5 ans, 6 ans, 7 ans,
oui, c'est ça,
avec les gens que j'ai en face de moi ? Et donc, le premier conseil à donner, à mon avis, c'est que si l'entrepreneur ne sent pas les gens qu'il a en face de lui, il ne faut pas y aller.
Si l'entrepreneur c'est ne simple. Sent pas les gens oui, qu'il a en face de lui, il ne faut pas y aller.
Et on est suffisamment aujourd'hui nombreux sur la place de Paris
pour trouver, finalement,
pour oui. trouver l'alchimie qui va bien entre une équipe entrepreneuriale et une équipe d'investisseurs.
Donc oui, j'allais dire votre conseil de grand frère là pour ceux qui vont être à l'étape de se poser ces questions-là, c'est vraiment ce casting qu'il faut faire en amont, en bon français, de manière à ce que ça colle dans les personnalités, parce que c'est un accompagnement, comme vous dites, sur 5-6 ans, et que les cas de fâcherie viennent abîmer un petit peu le...
Oui, absolument, et il y aura forcément des sujets de discussion... même peut-être des petits sujets de conflit, comme il y en a dans une association au sein même d'une entreprise, d'une start-up ou d'une PME.
Il faut que les associés déjà fonctionnent entre
comme
eux.
Comme il y en a dans une famille, comme il y en a dans un couple. Donc de toute façon, il y aura des sujets de conflit.
Donc l'anticiper, c'est choisir.
Voilà. Oui. Déjà, choisissons-nous, et nous aussi on choisit les entrepreneurs de cette manière-là, choisissons-nous en se disant qu'on arrivera à discuter au moment où les difficultés viendront et pour les surmonter.
Oui, mais la démarche humaine est très forte. C'est-à-dire que forcément, vous vous dites « choisissons-les » parce que en tant qu'investisseur, c'est votre regard, mais que les entrepreneurs n'hésitent pas eux-mêmes à avoir cette sélection
oui.
pour qu'il y ait une adéquation, pas seulement financière. La part d'humanité est essentielle dans cette démarche. Parce que
absolument.
Ça paraît un peu évident de le dire, et pour autant, on se doute que les entrepreneurs courent après les financements quand c'est nécessaire et qu'il n'y a pas forcément cette objectivité dans le choix.
Non, mais en réalité, elle est là. Et souvent, les entrepreneurs se trompent et commencent par aller vers le financement le moins cher ou qui va leur coûter le moins de dilution, alors que le plus important, c'est la qualité des gens avec qui ils s'associent et ceux qui vont pouvoir leur apporter le plus d'énergie en plus des financements, le plus de contacts, le plus d'ouverture vers le monde extérieur.
Parce oui, que, ça, je pense que c'est le point le plus important.
Un investisseur en capital dans des entreprises non cotées n'est pas un banquier.
Oui, oui. Oui
donc,
oui.
on est là, on se parle, on s'accompagne, on se réunit de manière formelle au moins tous les trimestres. Informellement, on se parle souvent au moins une fois par semaine et on aide l'entrepreneur à élargir aussi sa vision parce que nous, on a l'expérience d'autres secteurs, on a l'expérience de développement dans des pays où peut-être l'entrepreneur n'a pas été. Et donc, on lui apporte tout ça.
Oui, une valeur ajoutée qui est supérieure à ce qu'on peut imaginer
donc
au
ça,
départ.
Ça, c'est le deuxième point, c'est se dire qu'on n'apporte pas que de l'argent.
Non.
Le troisième point, c'est qu'on investit sur une équipe. Donc, évidemment, ça dépend beaucoup de la maturité de l'entreprise. Dans certains cas, elle repose très essentiellement sur une personne et sur un homme clé. Pour autant, des investisseurs préfèrent investir sur au moins 2-3 personnes clés parce que la vie est ainsi faite qu'une équipe est globalement plus performante qu'une personne seule. Donc c'est très important, au moins au moment où on va investir ou dans les mois qui viennent,
de sentir
petit à petit structurer l'équipe. Et là oui. aussi... on peut aider sans que ce soit une intrusion dans la vie de l'entreprise. L'élément le plus fréquent, c'est la partie financière qui est très souvent sous-structurée dans les PME parce que l'entreprise et l'entrepreneur s'est développé avec son expert comptable. Il a éventuellement une comptable en interne et rien de plus.
Oui, c'est ça.
Nous, on arrive avec évidemment des exigences de reporting un peu plus importantes. Et,
mais du coup, c'est constructif parce que, évidemment, je parlais de l'image du grand frère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous apportez une maturité et des réflexes de structuration qui vont leur faire du bien parce que c'est indispensable de croître avec de bons outils. Donc, si ça n'est pas venu au départ, vous les demandez.
Il faut jouer le jeu de manière positive. C'est-à-dire que si l'entrepreneur le vit comme une contrainte,
on passe
on
à côté de
pas.
Oui.
Donc, on apporte, nous, un savoir-faire de reporting et de suivi de l'activité sur le plan financier, de gestion du BFR, de gestion de la trésorerie, du suivi des coûts, qui est très vertueux. Et donc, il faut qu'il soit vécu et accepté comme tel par l'entrepreneur et son équipe.
D'accord. Alors du coup, ça m'amène les remarques que vous avez faites sur l'importance du choix en amont et en aval m'amène à une autre question, parce qu'on a beaucoup parlé à ce micro avec des acteurs de l'irréputation, des questions de justement vous parliez du regard que vous avez sur l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée justement que les gens qui se tournent vers des investisseurs fassent attention à la façon dont ils apparaissent sur Internet, parce que l'investisseur qui va les accompagner pendant 5 à 6 ans a aussi la nécessité de regarder comment eux-mêmes ressortent et comment l'entreprise dans laquelle ils investissent va se porter en termes d'image numérique, c'est-à-dire qu'il y a le métier même de l'entreprise dans laquelle vous investissez, mais il y a la façon dont elle ressort aussi en termes d'irréputation. Est-ce que c'est des éléments qui, du coup, vous ont, en tout cas chez vous, chez Argos Expansion, été pris en compte ? Est-ce qu'on l'entend de plus en plus dans les fonds d'investissement ?
C'est totalement clé. Les recruteurs le font, mais nous aussi, pour...
Mais voilà, mais on en parle pas.
On googlise quelqu'un, dès qu'on rencontre un entrepreneur... les jours d'après ou sinon l'heure d'après, on va voir ce qu'il a fait,
à quoi il ressemble numériquement.
Voilà, et comment ressort son profil. Donc évidemment, c'est un point tout à fait clé.
Parce que
va au-delà de l'irréputation, parce que généralement...
Un système de veille et de...
On essaye de retracer un peu le parcours des personnes, mais...
Parce que les investissements, toujours le grand frère, mais le coup de main, il est... vous arrivez à un moment essentiel. Donc les investissements maintenant d'Argos Expansion sont à quelle hauteur à peu près lorsque vous les accompagnez ?
Alors, nous, on intervient sur des PME qui sont déjà rentables et qui ont une position de marché... établi.
Donc voilà, ça c'était votre créneau. Voilà. Vous pouvez nous redonner, excusez-moi, je vous coupe, mais pour que les auditeurs replacent les possibilités, enfin les créneaux sur lesquels peuvent se positionner les fonds et de vous remettre vous au milieu de ce spectre-là.
D'accord. Alors je dirais il y a quatre grandes typologies d'investisseurs. Les premiers qui investissent en early stage, dans le jargon anglo-saxon, donc vraiment au tout début d'une entreprise, ce sont les business angels ou les fonds d'amorçage.
Oui.
Qui investissent des entreprises où il y a une idée, un entrepreneur sympa, un jean et un t-shirt, et on se dit, bon, ok, on va essayer de...
Qui commence dans un garage avec un...
Oui. Bon, voilà, et ça donne soit un truc qui va exploser en vol, soit Facebook...
Exploser, voilà. Vraiment, oui.
Donc, c'est un segment sur lequel il y a un taux de mortalité très élevé, et donc, c'est un type d'investissement très particulier.
Oui.
Et il faut une expertise souvent sectorielle pour faire ce métier. Ensuite, vous avez le capital risque, que je distingue un peu de l'early stage, bien qu'il en soit la continuité naturelle, mais qui intervient souvent un peu plus tard, c'est-à-dire quand il y a quand même déjà au moins un produit, et donc qui va plutôt financer peut-être la mise sur le marché, ou si on est dans la santé, des phases cliniques. On commence à être plus proche quand même de la mise sur le marché, voire le produit existe déjà, mais il faut mettre du fuel, par exemple si on est dans un software, pour aller le vendre, etc.
Oui.
Recruter des commerciaux, tout ça coûte beaucoup d'argent.
D'accord.
Ensuite, vous avez le capital développement, segment à partir duquel nous commençons d'intervenir. L'entreprise a un produit, elle a déjà des clients, la preuve du concept est faite. En revanche, il faut poursuivre le développement, accélérer. Ce n'est pas forcément des secteurs technologiques. Ça peut être dans des nouveaux concepts de distribution, que sais-je, le développement d'une nouvelle gamme dans l'industrie ou dans la santé, peu importe.
D'accord, mais ils ont néanmoins ce besoin, parce que dans le cadre de leur développement,
parce qu'il y a un moment où tout entrepreneur manque de fonds propres. C'est une loi de la nature. Sauf si l'entrepreneur était très riche lui-même avant d'investir, il y a un moment où les banques financent une première partie du développement, et puis il y a un moment où il faut remettre des fonds propres.
D'où mon envie de remettre les typologies pour qu'on...
La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la transmission, ou LBO, et... L'entrepreneur cède, ou d'ailleurs un acteur stratégique, cède l'intégralité et le contrôle d'une entreprise à un investisseur ou un groupe d'investisseurs financiers avec le concours d'une équipe de management en place ou d'une nouvelle équipe de management.
D'accord. Mais alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre le fait que, à votre sortie d'école, vous avez commencé par le LBO?
Alors moi, je remonte
exactement.
Le courant, comme les saumons.
Ah oui, mais comment vous l'appréhendez, ça? Parce que ça pourrait être un peu atypique, quand même, cette façon de l'expérience professionnelle. Vous allez finir votre carrière à soutenir les jeunes en jean et en t-shirt.
Oui, j'aimerais bien, parce que ce qui passionne tout le monde, c'est l'innovation et la création de nouvelles entreprises, bien sûr. Mais c'est un sport compliqué, risqué et coûteux. Et donc, et aujourd'hui, notamment en Europe, plutôt quand même un sport tourné vers la techno.
Oui.
Et donc, moi, je ne suis pas un ingénieur. Donc, c'est peut-être un segment de marché qui ne m'était pas ouvert de par mon parcours académique. Vous voyez ?
Oui, bien sûr.
Donc, j'ai fait le choix de rentrer dans le capital investissement, à une époque d'ailleurs où c'était assez peu connu, fin des années 99. début des années 2000,
oui.
Tous les jeunes qui sortaient d'école de commerce rêvaient de faire de la banque d'affaires. Il y a 10 ans, tous les jeunes qui sortaient d'école rêvaient de rentrer dans des fonds d'investissement. Donc, je ne fais pas partie de la génération des pionniers du capital investissement en France qui ont démarré plutôt à la fin des années 80.
Mais enfin, quand même, la première
c'était,
génération.
C'était encore un métier assez nouveau, peu visible, et dans lequel on allait simplement un peu à l'intuition en disant « Bon, ça, je sens que ça va m'intéresser et je sens qu'il y a des histoires d'hommes et d'entreprises fortes à écrire là. »
Oui, exactement. Et ces histoires d'hommes, alors je rebondis sur votre formule sur les dernières générations, vous qualifierez justement de celles qui arrivent, quelles sont ces envies? Parce que vous avez un regard du coup sur les entrepreneurs, mais là vous disiez qu'il y en a une, c'était les banques d'affaires, ensuite c'était les fonds d'investissement. Les envies de la génération actuelle
Je pense qu'il y a une envie très forte d'entreprendre.
Alors voilà, ça c'est le point positif, mais alors avec une solitude incroyable.
Avec une solitude incroyable.
Sauf. Alors...
ouais, mais... C'est fondamental pour les entrepreneurs de comprendre qu'il faut parler, réseauter, rencontrer.
Ah oui, revenons sur ce point parce que enfin, c'est... Oui.
Je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais...
Oui, si, absolument.
Il y a une envie très forte d'entreprendre. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est je vais m'enfermer tout seul dans mon garage, éventuellement avec un autre copain, et on va monter un truc ultra secret qui va révolutionner le monde. Non, parce que statistiquement, il y a... de nombreuses chances qu'il y a quelqu'un qui soit déjà en train de l'inventer en parallèle ou qui l'a déjà inventé.
Donc le nez au vent, les oreilles très ouvertes.
Voilà,
et regard...
parler, rencontrer. On a un feedback très positif des gens, que ce soit des copains, tester le concept. En plus, les concepts évoluent. On ne met pas au point un produit instantanément. Quand Sony a créé le Walkman, au début, il pensait faire un truc pour deux personnes avec chacun se partageant une oreillette. Bon, et ce n'est pas ça ce qui a fait la fortune du Walkman, donc... Il faut avoir une vision très, très adaptative et très souple de l'entrepreneuriat. Si on a une idée, très bien, on la suit, mais accepter qu'elle change, que d'autres personnes vous aident à changer votre vision, vous aident à la rationaliser, vous aident à la rentabiliser, parce qu'in fine, il faut aussi gagner de l'argent, c'est important. Donc voilà, il faut avoir la passion de l'entreprise et l'humilité d'être à l'écoute des conseils qu'on peut recevoir.
Bon, effectivement, voilà avec une conclusion quasiment toute faite. Louis de l'Étanville, merci pour cette présentation à la fois de ce que vous étiez, de ce que vous faites aujourd'hui, et puis ces conseils apportés à ces entrepreneurs qui ont besoin d'avancer et de survivre aujourd'hui. Un mot pour conclure sur les projets clés pour Argos Expansion, puisque vous êtes vous-même donc avec cette casquette et cette capacité de développement. Vous êtes sur quels sont les points que vous visez pour l'année à venir?
Nous, on est en pleine phase d'investissement, donc on est évidemment à la recherche d'entreprises de qualité et d'entrepreneurs avec lesquels nous associer.
Je laisse les auditeurs vérifier si ça peut coller avec leurs étapes de développement et se présenter à vous.
Et puis peut-être un message plus général, c'est que il faut qu'on ait de bons entrepreneurs qui restent en France, parce que le climat de la France actuel sur le plan international, économique et financier est un peu compliqué. Et donc, restons et battons-nous pour construire toujours notre pays sur le plan économique aussi, c'est fondamental.
Battons-nous pour construire le pays sur le plan économique. Restons en France, entreprenez avec courage. Merci Louis de l'Étanville.
Merci Benoît.
À très bientôt à l'antenne des Hommes Clés. Merci beaucoup.